Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées? Que font-elles pour les développer? Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs? C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Clelia Rinucci, autrice et essayiste, nous parle de son processus.
J'ai publié quatre ouvrages chez Albin Michel. Le premier, c'était un essai sur les cougars dans la littérature. Alors, faut bien aimer les classiques, mais si on aime bien Stendhal, Balzac, Flaubert, c'est assez amusant. Je me suis amusé à revisiter tous les classiques en me disant, mais c'est fou, il y a des cougars dans tous. Le 19e siècle est fan de la cougar, autant que le 21e siècle. Et non, c'est pas tout un monde. Donc bref, ça m'amusait, et d'essayer de voir la misogynie de l'époque, d'aujourd'hui, voilà. Et ensuite, j'ai publié trois romans. Un premier qui s'appelle Concours pour le paradis, qui raconte la lutte de Tintoret et de Véronèse pour représenter le paradis dans le palais des doges qui vient de brûler. Ça devait durer 5 ans, ça dure 20 ans, et c'est infernal de rebondissement. Le deuxième est un roman plus contemporain, qui s'appelle La fabrique des souvenirs. Et le troisième, je suis retourné en Italie avec le pavillon des oiseaux, où là, c'est la famille Farnèse et Médicis qui s'entrechoquent autour de la personnalité de Clélia, la fille d'un cardinal, maîtresse d'un autre cardinal. Chacun veut être pape, et cette pauvre jeune fille est au milieu de tous ces hommes. Voilà.
Et c'est un personnage qui est
totalement, oui, totalement réel.
Ah oui.
Mais oui, je suis tombé sur elle. Je m'appelle Clélia, donc c'est pour ça qu'elle m'a intéressé. Et j'aime La chartreuse de Parme, roman de Stendhal dans lequel l'héroïne s'appelle Clélia, c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Donc j'ai d'abord cru que j'étais tombé enfin sur le modèle de Stendhal en visitant la Villa Médicis, et pas du tout. C'est une autre Clélia, celle dont je raconte l'histoire.
Du coup, comment tu en es arrivé à écrire des romans et des essais?
C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis petite, et ensuite j'ai fait des études littéraires. Et c'est vrai qu'en Cagne, je rédigeais mes dissertations comme si j'écrivais mes premiers essais. Et naturellement, je pensais que j'écrirais sur la littérature, que je ferais de la critique littéraire. Et les cougars en est un exemple, même si j'aime toujours le choc de la modernité, enfin du monde contemporain et du monde plus ancien. Et après, c'est grâce à mon éditrice, celle qui a publié Les cougars dans la littérature, qui m'a suggéré d'écrire un roman, me demandant si j'avais des idées. J'avais l'idée de Concours pour le paradis, mais je crois que sans elle, je n'aurais pas osé écrire un premier roman tellement, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'énoncer, tellement j'avais fait des études littéraires, et donc j'avais beaucoup lu, et je ne suis pas sûr que j'aurais osé me confronter à mes modèles. Et en fait, au moment où on écrit, et tu écris aussi, et on pense à personne d'autre qu'au roman qui est en train de s'écrire. Et c'est vrai que là, j'aurais du mal à... Moi, je n'ai pas d'autre idée d'essai, mais j'aurais du mal à retourner à une écriture qui ne serait pas romanesque. C'est un plaisir de tous les jours d'inventer les personnages, même si je pars sur des bases réelles. Je m'inspire de sujets, de faits qui se sont historiques, qui se sont réellement déroulés. Tu prends des grands personnages, Tintoret et Véronèse pour le Concours pour le paradis, ou les Farnèse dans le troisième. Mais j'ai l'impression que une fois que on a cette base réelle, ensuite le roman fait dépasser tout ça et que les personnages se créent quand même. Et c'est très intéressant.
Et alors justement, ton point de départ, c'est plutôt l'histoire ou c'est les personnages?
C'est une anecdote, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui me touche, sans que ce soit bien compréhensible. La Clélia Farnèse, dont je viens de le dire, elle portait mon prénom, donc ça part de quelque chose de très anecdotique, mais après une rapide recherche, quand je vois qu'elle est maîtresse de cardinal, fille de cardinal, enfin, je me dis que sa vie est assez amusante. Et puis ensuite, je me plonge complètement dans les recherches, et là... Je découvre, ou non d'ailleurs, il y a des sujets où l'anecdote m'a fait rire, puis ça reste anecdotique et donc je ne traite pas le sujet. Et pour Concours pour le paradis, c'était pareil. Je suis tombé face à cette toile du Tintoret dans le palais des Doges en visitant le palais comme tout le monde. Et il y avait une pancarte avec une flèche qui indiquait Concours pour le paradis et qui nous disait d'aller vers ce concours. Et je me suis dit que je participerais bien à ce concours, donc ça part d'une blague. Et après, j'adore faire des recherches. Donc, une fois que je me suis plongé dans le sujet... Mais c'est à chaque fois des sujets qui, en même temps, me touchent et qui me semblent bizarrement contemporains. pour Clélia, cette femme forte au milieu de d'hommes extrêmement puissants et un peu mesquins à la fois, et enfin voilà, ces intrigues psychologiques pouvaient, enfin, sont éternelles en fait, parle d'aujourd'hui comme d'hier. Et pour le paradis, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est d'imaginer qu'il ait pu exister un jour un concours pour le représenter, le paradis, et qu'aujourd'hui le paradis, enfin quand j'ai écrit, on était juste après les attentats, le paradis était vraiment une notion dont on parlait tout le temps, et de ce qui nous attendait, que s'ils allaient au paradis, etc. Donc j'en entendais parler tout le temps, et c'est pour ça que ça m'a intrigué, quoi. Et je me suis dit, s'il y avait un concours pour le paradis aujourd'hui en peinture, peut-être ça déclencherait une guerre mondiale, en fait. Je n'ai pas traité ce problème, mais je me suis intéressé au vrai concours pour le paradis. Et 2 ans plus tard, quand Notre-Dame a brûlé, hélas, et que Macron a annoncé un concours pour Notre-Dame en se posant exactement les mêmes questions que les questions qu'on s'est posées au XVIe siècle, c'est-à-dire est-ce qu'on refait à l'identique ou est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau, ouais. Là, j'étais navré pour Notre-Dame, mais quand même, ça m'a fait bien rire intérieurement, quoi. Les questions, tout ça, c'est ça. Les questions sont toujours les mêmes, quoi.
Et alors, pour La Fabrique des Souvenirs, parce que pour le coup, c'est le roman où il y a le... Alors, il y a beaucoup d'anecdotes historiques, mais les personnages sont imaginés, l'intrigue...
Ah oui, alors là, c'est complètement autre chose. Absolument. C'est vrai que j'ai eu cette idée de vente aux enchères de souvenirs. Je me suis dit, on va aller chez Drouot ou dans les maisons de vente aux enchères, chez Christie's, chez Sotheby's, non pas juste pour acheter des tableaux, des objets d'art, mais on va acheter les souvenirs des autres, et on va vendre les siens. Et à partir de là, c'est vrai que tout est venu en... L'idée est venue avant celle des personnages, donc pour ta question de départ. Et j'ai eu tout de suite l'idée d'un homme qui tomberait amoureux par l'intermédiaire d'un souvenir, d'une femme qui serait de dos, donc qu'il ne verrait pas, assise de rang devant lui dans un théâtre. Et ensuite... toute l'intrigue est née de là, de Gabriel et d'Oriane, c'est comme ça qu'ils se nomment dans le roman, et de cette idéalisation, en fait, au travers des souvenirs, et de cette quête aussi, pour retrouver l'identité de cette femme à travers ses ventes aux enchères. Et c'est vrai que toute l'idée est venue, en fait, très, très rapidement, avec l'idée d'un roman choral, avec des gens que j'ai appelés des mnémophiles, des gens qui aiment bien la mémoire, qui se retrouvent en temps en chair, enfin, moi, toute une bande d'amis qui va aider ce héros à accomplir sa quête, quoi, et à trouver son destin. Et là, oui, c'était très différent, j'ai mis un peu d'histoire, parce que ça, je peux pas m'en empêcher, et que ça m'intéresse, et j'ai mis de l'art, surtout. Elle est violoncelliste, elle est la maîtresse d'un luthier. Alors c'est ce qui me plaît quand j'écris des romans. Donc pour ça, je suis allé à Crémone, ce que je conseille à tout le monde. C'est une petite ville en Italie, mais c'est comme toutes les petites villes en Italie, mais c'est absolument magnifique. Et il y a le musée du violon où on voit des dizaines de Stradivarius. Tous les violons sont... Je connaissais pas bien du tout l'univers du violon. Je suis pianiste, moi, et pas violoniste. Et encore moins violoncelliste, comme mon héroïne. Mais pour moi, écrire un roman, c'est aussi vivre des expériences, faire des voyages, en plus de faire des recherches, et rencontrer des gens. Pour le paradis, j'avais rencontré le conservateur du musée du Louvre, qui avait organisé l'exposition sur le paradis, mais il y a 15 ans, 20 ans. Et j'avais appelé le standard du musée du Louvre en disant « Bonjour, je voudrais parler avec un tel ». Il était à la retraite, mais on m'a donné son mail, j'ai envoyé un mail. Enfin, c'était incroyable. Les portes s'ouvrent assez facilement, en fait, quand on en a envie, j'imagine. Et il m'avait ouvert les archives du Louvre, en plus de passer 4 heures avec moi à répondre au moins de mes questions. Enfin, c'est très marrant, quoi. On fait des vraies rencontres. Là, au Palais Farnèse, où j'ai réussi à aller malgré le Covid pour aller visiter les lieux où ma Clélia, mon héroïne, vivait. Et pour La Fabrique des Souvenirs, ça, c'est encore autre chose. J'ai revisité... c'était intéressant parce que j'ai beaucoup parlé avec ma mère, parce que la Oria n'est pas si loin de mon arrière-grand-mère. Et donc là, j'ai revisité quelque chose de plus intérieur, mais c'était intéressant aussi.
Et alors, le prochain roman, ce sera plutôt
là, y a la sculpture. Je ne sais pas encore. J'hésite encore sur le siècle. Disons, c'est probablement à Paris sous Haussmann, mais à mon avis, il y aura un peu de contemporain aussi. Et en tout cas, ce sera sur la sculpture. Je suis complètement dans le moulage et le bronze, et etc. J'adore ça. Je vais visiter les ateliers de Coubertin, je suis ravi. Ateliers de Coubertin qui permettent au bronze d'exister. Or, Haussmann a créé quand même, en plus de créer tous les immeubles haussmanniens qu'on connaît, il a agrémenté tout ça de statues absolument sublimes. Voilà. Et de cariatides, etc. Bref, c'est de ça dont j'ai envie de parler.
Et alors justement, à partir du moment où tu as une idée, alors que ce soit plutôt par un personnage historique ou plutôt par un concept, comme pour la fabrique des souvenirs, comment est-ce que tu développes l'idée ensuite et comment tu en fais une histoire?
Ouais. C'est assez long, hein. C'est un processus qui n'est pas rapide. Mais une fois que vraiment, déjà, le sujet mûrit pendant très longtemps. Là, je te parle d'Haussmann, ça fait. Si je regarde dans mes notes, hélas, l'application Notes de l'iPhone ne te dit pas quand tu as inscrit les choses. Mais à peu près chronologiquement, je sais que c'est il y a 7 ans que je me suis mis la première fois les oubliés d'Haussmann. Il faut parler de ça. Et en fait, c'est pareil pour tous les sujets. Le paradis, je l'avais depuis des années aussi. Enfin, voilà. Tous les sujets mettent très longtemps à mûrir sans que j'y pense vraiment, parce que je fais autre chose entre-temps, mais je sais que j'ai ce sujet et qu'un jour, il faudra le traiter. Et donc, bon, je suppose que cette phase aide à ce que, ensuite, quand je m'y mets, j'ai quand même eu déjà mon axe. La première chose, je trouve, qu'il faut trouver, et quand on écrit un roman, et ce qui n'est pas obligatoirement facile, c'est de trouver son axe, vers quoi on veut, quel est vraiment le fond du problème, quoi, de ce que vous racontez. Et je trouve qu'une fois qu'on a trouvé l'axe, et que moi j'ai fait mes recherches, puisque je dois faire pas mal de recherches, donc là je lis sur mon sujet, mais ça ne sert à rien de lire tant que je n'ai pas mon axe. Donc en fait, l'axe, il se trouve en dehors de toute question réelle, historique, de recherche, etc. Et dans le cas du Tintoret, c'était la relation père-fils. C'est ce que j'avais perçu, les enjeux familiaux des ateliers des peintres. Et c'est ce qui m'intéressait. Enfin, voilà. Et dans le pavillon des oiseaux, bon, on est aussi dans des relations familiales. Dans la fabrique des souvenirs aussi, tiens, très
Oui, en fait, oui.
bien. Formidable. Donc c'est visiblement ce qui m'intéresse. Mais une fois que je trouve l'axe, ensuite le plan en découle. Les fiches, tout ça est très long, ça prend une année. Et enfin seulement, les personnages se développent au fur et à mesure de tout ce travail, et j'ai l'impression prennent toute leur puissance au moment où j'écris, en fait. Et donc, je les retravaille, je peux revenir sur quelque chose, parce que je trouve qu'en fait, cette personnalité lui va pas très bien. Enfin, je les découvre au moment de l'écriture. En vrai. Ce qui est assez étrange, mais c'est comme ça que je m'en étais pas rendu compte. C'est en te parlant que je réalise.
Mais en fait, ça veut dire que tu as quand même une grosse phase de préparation, donc à peu près un an avant de
Ouais.
commencer à écrire.
Oui, absolument.
Ouais.
Mais une fois que tout est fait, une fois que la préparation est terminée, que le plan est fait, que les fiches sont intégrées, j'ai l'impression que le roman est écrit, quoi. Il reste plus qu'à l'écrire et ça va très vite. Enfin, très vite, pas très vite non plus, mais je m'applique à avoir un rythme de 5 pages par jour, et donc c'est vrai qu'on avance assez bien, parce que j'ai toujours peur, si je suis coupé pendant un jour au milieu de l'écriture, de perdre mon fil, de perdre mon style, de perdre tout, enfin voilà ce que je suis en train de construire. Je trouve c'est assez difficile comme ça pour pas en plus s'arrêter. Et donc faut trouver un bon moment, mais une fois que j'y suis, là je m'arrête plus.
Mais au final, à partir du moment où tu écris, tu peux quand même faire des allers-retours avec, parce que tu dis que tu découvrais aussi tes personnages à partir du moment où entre guillemets, tu les mets en mouvement.
Oui, absolument, mais non, enfin, c'est. Je peaufine, quoi. Mais non, j'écris du début à la fin et avec une méthode qui est tout le temps la même. C'est pas toujours aux mêmes heures. Ça n'a pas été aux mêmes heures à chaque fois. Parfois c'était le matin, parfois c'était l'après-midi. Mais en gros, je me laisse 4 heures de temps et dans ces 4 heures, j'écris à la main. Il faut avoir fini 5 pages, sinon c'est que j'ai pas travaillé. Après ça, tant que je n'ai pas relu à voix haute à un tiers, à quelqu'un qui m'écoute, j'ai l'impression que le travail n'est pas fini non plus. Et c'est au moment où je me relis que je vois bah, les petits ajustements qu'il faut faire ou si au contraire un passage est complètement raté et que là, il faut le réécrire le lendemain. Ça n'arrive pour le moment que dans les scènes pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire le livre. La scène où c'est celle qui m'a mené, la scène vraiment la plus importante du livre. En général, celle-là, je peux m'y reprendre à deux fois parce que je suis tellement fébrile avant de l'écrire que ça vient pas tout seul. Mais sinon, je me force à continuer, quoi qu'il arrive. Parce que je trouve que là, je sais pas ce que tu en penses, toi qui écris aussi, mais une des grandes difficultés, c'est aussi de terminer la première version. Ensuite, la relecture viendra et on pourra procéder à tous les ajustements qu'il faut. Mais terminer cette première version, c'est quelque chose qui paraît une montagne. Et moi, pour éviter de le voir comme quelque chose d'insurmontable, je me force à avoir ce rythme. Ça m'aide aussi, c'est pragmatique, quoi. Ça m'aide à ne pas me décourager, tout simplement.
Oui.
Parce qu'en plus, je traite de sujets tellement... Enfin, tout le monde, d'ailleurs. Je suppose qu'au moment où on écrit son roman, on se dit, mais... Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que tu as à t'intéresser à cette problématique ou ces personnages? Enfin, il y a toujours des moments de découragement. Et cette régularité, elle m'aide à les surpasser. Quoi.
Oui, puis je trouve qu'en plus, ça aide à se projeter un peu dans le temps, parce qu'on se dit, bon, là, en fait, je mets tant de temps à peu près, donc j'ai un mois et demi d'écriture.
Voilà.
C'est plus facile de se projeter mentalement que de se dire, ben, je sais pas quand je le termine.
Oui, tout à fait.
Mais la motivation.
Mais on sait que tout est... J'ai entendu Charlotte Milandry, une autrice, raconter comment elle écrit. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de raconter. Elle écrit par fragments, ça lui a pris 8 ans. C'est un premier roman, mais elle raconte que ça lui a pris 8 ans, qu'elle a mis dans l'ordre, dans le désordre, etc. Enfin, c'est incroyable. Et je serais absolument incapable d'écrire comme ça. Mais moi, en tout cas, cette méthode, elle fonctionne. Et elle me permet d'être le plus efficace possible et de pas perdre mon idée ni mon énergie.
Mais ça veut dire que pendant l'écriture du premier jet, tu as déjà un regard extérieur.
Oui, qui n'est pas là pour m'indiquer si... qui n'est pas là pour avoir un point de vue. Hein.
Ah d'accord, c'est non. Uniquement...
Le fait de lire à voix haute devant quelqu'un
d'accord. Me
permet de... Enfin, si par hasard il y a un vrai problème, elle me le dit évidemment, mais ça me permet d'être honnête avec moi-même. Et parce que pour ceux qui sont en train d'écrire ou qui ont déjà écrit ou qui ont envie d'écrire un roman, il est, je crois, tout à fait normal de se relire et de se dire soit oh, écoute, ça passe bien alors qu'on fait pas vraiment d'efforts intellectuels, soit, ce qui arrive le plus souvent, c'est pas possible, ça ne marche pas, je jette tout. Et bon, le faire calmement face à quelqu'un d'autre, je trouve, en tout cas pour moi, ça me permet d'être relativement honnête et de voir et écouter à voix haute, s'entendre à voix haute, ça c'est quelque chose qui trompe pas aussi. Mais le faire tout seul, je trouve que c'est, il y a peut-être une autre solution, c'est de s'enregistrer éventuellement, je sais pas, et de se réécouter, parce qu'on déteste écouter sa voix en plus, donc ça doit être très difficile.
Ouais, j'ai essayé, c'est pas facile.
Ah, ça doit être affreux, alors qu'avec quelqu'un au téléphone ça va. Mais la personne n'est pas là en effet pour dire elle est là pour encourager évidemment, ouais. Voilà, pas pour pinailler sur des détails, quoi. C'est pas ça l'idée. En faisant ça, j'attends pas de validation, mais la validation, elle doit venir de moi.
Et alors, justement, la phase de réécriture, moi, c'est une phase qui me fait extrêmement peur et où il y a beaucoup de découragement.
Ah oui?
Comment tu la gères, toi?
J'aime pas beaucoup ça non plus. Je coupe pas mal. Donc je déplace, ça peut m'arriver, mais non, c'est pas une phase que j'apprécie non plus, mais pareil, je me dis, bon, bah, ok, t'as 4 relectures. Enfin, me donner des objectifs m'aide à surpasser ça, puis souvent, je suis pas toute seule aussi, je le fais relire par d'autres gens avant de l'envoyer à l'éditeur. Mais ça, une fois qu'on est en train de relire avec l'éditeur, je trouve que cette phase-là devient extrêmement agréable. Parce que tu as un avis extérieur, mais qui est un avis qui a envie de te publier. Donc, un, tu lui fais confiance, et deux, t'es plus dans le vide de ta propre création. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce regard extérieur. Quand on est dans une maison d'édition, en tout cas chez Albin Michel, ça se passe comme ça. Il y a d'abord mon éditrice, et là on travaille toutes les deux, elle pose des vraies questions, elle me fait réécrire parfois des scènes, elle m'en fait rajouter, enfin voilà, c'est un vrai œil qui m'intéresse. Et ensuite, il y a d'autres relectures que j'adore aussi, c'est des correctrices, je crois que c'est ça le titre de leur métier. Et elle corrige en rouge, et là, c'est de la langue, et c'est magnifique. Elle maîtrise à la perfection la langue française, elles sont subtiles, c'est fin, elles proposent des ajustements. C'est vraiment une période, je trouve, extrêmement délicieuse de délicatesse autour de ton texte, qu'on prend au sérieux. Enfin, j'aime beaucoup cette période, mais la relecture toute seule, c'est vrai que c'est... Il faut le faire à plusieurs, je pense. Moi, je le donne aussi à relire pour avoir un avis extérieur à ce moment-là, parce que sinon, on est, y a un moment, on n'en peut plus. En revanche, je donne vraiment le texte... Là, je ne sais pas pourquoi je donne des conseils, mais si y a des conseils à donner, je donne le texte le plus parfait possible. Je ne m'attends pas à ce que ce soit l'éditeur qui fasse ce premier travail, parce que ce n'est pas son rôle, me semble-t-il. Voilà.
Mais alors, justement, comme toi, tu écris à la main, il y a un moment où tu vas littéralement réécrire ton histoire.
Ah oui, et ça, c'est... oui.
Est-ce que tu commences à corriger à ce moment-là ou pas?
Ah oui, tout à fait. J'écris à la main et en gros, tous les 4-5 chapitres, toutes les 40-50 pages, je sens que je m'essouffle un petit peu. Et je sais que ça prend beaucoup de temps de remettre sur l'ordinateur. Je sais que ça va me prendre un temps fou. Et c'est le moment où je passe à la réécriture sur ordinateur. Et là, ça me permet les premières corrections, de voir les premières incohérences, de supprimer, de déplacer un petit peu. Et donc, ça fait une première relecture en cours d'écriture.
D'accord.
Qui est, je pense, extrêmement utile, à mon avis. Ça fait un texte un peu plus propre pour la première version imprimée. Mmh. Et ça permet de voir régulièrement si... on part dans une mauvaise direction, on part dans une direction qui n'était pas en tout cas celle qui était prévue. Bon, après, moi, comme je suis quand même pas mal mon plan, comme je travaille vraiment beaucoup en amont, bon, ce serait en amont que je me serais trompé, quoi. D'après le schéma que j'ai en tête. Parce que je suis une ligne, quoi. Je sais vers quoi va cette histoire, vont ces personnages. Donc.
Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments où vraiment tu sais pas, entre guillemets, s'il faut prendre à droite ou à gauche, ou tu te retrouves un peu...
Voilà, mais c'est pas à l'écriture. Ça, c'est au moment du plan.
C'est au moment du plan, c'est ce que j'ai demandé.
Et, oui, bien sûr. Mm. Mais le plan, c'est facile d'en faire plusieurs. C'est là que je trouve que c'est une solution qui me va bien. Mais... En fait, j'ai l'impression que quand je trouve cet axe qu'on peut appeler problématique, si on parle de dissertation, enfin, voilà, mais... Je trouve que quand on a vraiment un axe qui nous lie à notre histoire et qui nous mène vers quelque part, j'ai l'impression qu'avec cet axe, genre, en tout cas, je me suis finalement pas vraiment retrouvé dans ce genre de situation avant d'avoir cet axe. Quand je tâtonne encore sur le sujet et la façon de le traiter, mais je trouve qu'une fois qu'on a l'objectif en vue, il n'y a plus de chemin possible. Il n'y a plus... Enfin, pour moi, le chemin, il est tracé, quoi. Il peut être sinueux, mais il a quand même une vision globale, semble-t-il.
Du coup, tu me disais que tu faisais appel à pas mal d'aide au final au cours de la...
Ah oui, on travaille à plusieurs. Ouais. Les gens sont très gentils avec moi. J'ai une famille très présente qui est adorable, parce que sinon, je n'écrirais pas un mot, je crois. J'écris pour moi, mais... Si je suis pas épaulé, je trouve ça trop difficile. Enfin, mais je suis pas quelqu'un de très solitaire en plus, dans l'absolu. J'écris toute seule, je passe ma journée à être toute seule à faire mes recherches, mais j'ai vraiment besoin qu'on m'appuie et qu'on m'aide et qu'on m'encourage et qu'on... Chacun a son rôle, en fait, dans la distribution de chez moi. Même les enfants, maintenant, non. Ils mettent le petit point au bout des 5 pages manuscrites. Ils ont trouvé cette idée de me mettre un petit marqueur qui me dit tu as atteint tes 5 pages. Je peux leur prouver le soir que j'ai bien travaillé. Donc tu vois, tout le monde participe et je trouve ça assez sympa. Et même si je suis bloqué, oui, donc tu vois, si quand même. Parfois il m'arrive de me trouver à deux directions possibles. Si je suis bloqué, si j'ai l'impression que j'ai atteint un palier mais que c'est trop long, enfin quelque chose, et là, souvent, quelqu'un m'aide, quoi. Enfin, j'en parle. Je suis pas muré dans mon travail, du tout. Et même les sujets, quand ils émergent à peine, j'ai besoin d'en parler, j'en parle tout le temps. Ça les fait devenir réels, en fait. Voilà. Sinon, je pense que rien ne sortirait. J'ai besoin d'extérioriser beaucoup.
Et alors justement, comment tu mets le point final? Est-ce que c'est tes enfants qui le mettent?
Petit chat. Non. Non, bah, le point final, j'attends que ça depuis le début. En général, je l'ai en fait. Je sais, toujours avec cette question d'axe, je sais exactement là où je veux aller. Et c'est toujours un moment émouvant. Mais dans la fabrique des souvenirs, c'était un peu différent. Mais je savais que je voulais qu'on hésite sur le fait de savoir si ça y est. Il a, donc, à défaut d'être amoureux d'une femme qui n'existe plus, qui est déjà morte, qui est un idéal, et d'avoir trouvé une personne réelle qui vit dans son monde et qui n'est pas dans des souvenirs et qui est amoureux, dont il est amoureux, je voulais qu'il y ait l'hésitation au final sur est-ce qu'il va retourner aux maisons de vente aux enchères comme un joueur compulsif, est-ce qu'il va accepter cette vie réelle. Et voilà, la pirouette, je l'avais depuis le début. Et pour le paradis, bon, pour le paradis et la farnèse, c'était autre chose parce que l'histoire existe et je n'ai rien à inventer. Mais je trouve que c'est des beaux moments, les fins. J'aime bien les fins de Mathias Sénard, par exemple. J'avais la fin de Mathias Sénard de Parler l'heure de bataille de roi et d'éléphant. Il a une fin, mais c'est sublime, c'est lyrique, c'est poétique. Et en même temps, avec son style, enfin là, c'est plus un style de conteur. Qu'il emploie pour. C'est l'histoire de Michel-Ange qui doit aller construire un pont pour un sultan. C'est génial. C'est un très bon livre. Ça fait que 100 pages. C'est magnifique. Et il avait une fin comme ça. Wow, qui nous emporte. Et c'est toujours ce que j'essaie de trouver, quoi. Quelque chose qui nous émeut. J'ai envie d'émouvoir à la fin. Qu'on ferme le livre en se disant. Qu'on aurait bien envie de. Et, ben, moi, en tout cas, en tant que lectrice, quand j'ai aimé tout le livre et que cette fin, que quelqu'un réussit à m'émouvoir en plus avec des beaux sentiments ou des réflexions ou quelque chose d'intéressant à la fin. Tu sais, c'est le moment où tu n'as plus envie de quitter le livre et tu lis le numéro de dépôt légal de l'imprimeur jusqu'à ce que vraiment tu ne puisses plus rien lire. Et voilà, c'est l'effet que j'essaie d'obtenir.
Et à quel moment vous mettez le point final avec ton éditeur?
Là, c'est. Il y a pas mal de relectures aussi avec l'éditeur. Hein. C'est trois relectures sérieuses avec l'éditrice, puis ensuite les relectures. Donc c'est très long le processus de. Et puis c'est l'éditrice en fait qui arrête à la fin. Tu touches plus, tu arrêtes. Parce que à la fin de quand on a donné son roman, on a un truc qui s'appelle le bon à tirer. Enfin, il y a plein d'entreprises, le BAT, il y en a d'autres suites, mais il y en a un où on ne peut plus faire de modification que si on voit une faute d'impression. Vraiment, la faute d'orthographe qui est restée, on ne sait pas pourquoi, voilà. Et on n'a pas le droit de changer les phrases. Et c'est ce moment-là où moi, j'ai encore envie de tout changer, et elle me dit, stop, c'est bon, il est bien, tout va bien. Donc c'est eux qui mettent le point final. On pourrait continuer, nous, à vie,
bah oui.
À se relire.
Corriger
jusqu'à exactement, sinon, ça ne s'arrêterait jamais.
Et comment tu vis, justement, les retours sur ton livre une fois qu'il est sorti, alors que toi, tu pourrais corriger encore et encore?
Ah oui, bah, c'est hyper intéressant. Puis j'ai vu la différence entre le premier livre qui est sorti en 2015, et Instagram n'existait pas. Et je te jure, et Le Paradis, qui est sorti en 2018, et là, enfin, je sais pas si Instagram existait en 2015, mais en tout cas, il n'y avait pas ce qui s'appelle le bookstream Instagram. Et 2018, ça avait explosé. Et c'était incroyable, parce que non seulement il y a des retours qui sont ceux des libraires, ça c'est merveilleux, là c'est les retours qu'on attend le plus, parce qu'ils sont vraiment extrêmement prescripteurs, des grands lecteurs, enfin voilà, c'est... moi je les attends vraiment fébrilement, puis je suis toujours sorti aux rentrées littéraires chez Albin Michel, donc c'est cette immense réunion de présentation de la rentrée littéraire qui se passe en juin dans un décor mais somptueux à la Maison de l'Amérique Latine, et on arrive, aucun des auteurs n'a jamais parlé de son livre encore, il n'est pas encore sorti, il sortira en août, et il faut pour la première fois parler devant 400 libraires de son livre. C'est la première interview. Donc c'est une espèce de mise en bain. On nous jette dedans. Voilà. Et ça, c'est devant les libraires. Donc, c'est vrai qu'il y a ce premier contact avec les libraires qui est génial. Ils n'ont pas encore lu le livre, mais ils écoutent, puis ils prennent des notes. Et toutes les maisons d'édition font pareil. Donc, en fait, c'est comme des roadshows en finance. Ou, voilà. Et à la fin, ils se disent, c'est hyper important, parce qu'ils se souviennent des quelques livres qui les ont marqués au cours de ces présentations. Donc déjà, il faut essayer de marquer les libraires. Et ensuite, pardon, je parlais d'Instagram. Et c'est vrai que l'explosion du Bookstagram, c'était dément, parce que j'ai eu plein de retours que je n'avais pas eu pour l'essai. Mais je pense que si le Bookstagram avait déjà existé, peut-être y aurait-il eu déjà des courriers. Enfin, au 19e, c'était du courrier des lecteurs. Mais là, c'est magnifique de recevoir vraiment pas mal de messages directs ou des posts. Alors, dans les messages directs, personne ne m'agresse. En plus, je ne fais pas des livres qui tendent à hérisser les gens. Enfin, je veux dire, tu peux ne pas aimer, mais c'est pas, ça ne traite pas de sujets lourds. Voilà. Donc, dans les messages directs, c'est souvent des retours positifs de lecture. Et c'est vraiment, ça fait un plaisir fou. Et par contre, dans les posts, parfois, évidemment, ça arrive que les lecteurs ne soient pas rentrés dans le livre. Et puis, c'est la vie. Et je les lis avec attention. Comme j'ai tendance à pas l'autodénigration, le mot est un petit peu fort, mais à trouver moi-même que vraiment quiconque me critique a raison. Donc je regarde, je suis souvent d'accord avec eux en me disant bon, ok, faudrait que tu fasses attention à moi. Et bizarrement, je prends presque comme des cons. Bon, parfois si c'est mal écrit ou que c'est hargneux, je le regarde pas. Encore une fois, mes livres ne sont ni assez connus, ni assez polémiques pour que les propos soient hargneux. C'est plutôt des questions qui sont intéressantes et qui éventuellement peuvent essayer de... Enfin, j'essaye de les imprimer pour y penser. Et puis finalement, quand on est en train d'écrire, on ne pense plus du tout à tout ça. Donc je refais probablement les mêmes erreurs. Enfin, en tout cas, ceux qui n'ont pas aimé la première fois n'aimeront pas obligatoirement plus la troisième. Mais voilà. Non, en tout cas, le Bookstagram, c'est démentiel. J'espère que ça va continuer. Parce que pour des livres de littérature générale, je sais que TikTok, il paraît assez dingue aussi, mais je crois que ça ne traite pas du tout de livres tels que, en tout cas, ceux que j'écris ou ceux qui sont publiés aux rentrées littéraires. Quoi. Et or là, ça donne ça donne accès à l'auteur, à un nombre de lecteurs qui est vraiment formidable.
Il y a des retours aussi.
Mais bien sûr. Puis il y a les salons aussi, mais alors là, les salons, c'est encore un autre sujet. C'est à la fois très exaltant parce qu'on est avec d'autres auteurs, que c'est très sympathique, on rencontre plein de monde. Et en même temps, quand on n'a pas encore publié de best-seller, c'est assez... La journée peut être un peu longue. Mais les gens sont très gentils. Hein. Ils viennent souvent s'intéresser, mais bon.
Comment tu nourris ta créativité, ton inspiration, mais aussi ta technique? Parce que c'est un peu ce que tu disais sur la phase de relecture. En fait, il y a aussi le côté langue française, en fait.
Ah oui, bah ça... en lisant beaucoup, hein. Je pense que c'est vraiment en lisant qu'on... c'est ce qui nous apporte le plus, à mon avis. Et sur la créativité, pour moi, c'est beaucoup de voyager, de vivre autre chose. Voyager en Italie, hein, pas loin, en l'occurrence. Mais enfin, voilà, pas obligatoirement des grands voyages, même si j'adore ça aussi. Mais j'ai l'impression que dès que je me déplace, j'ai des idées. Rester à Paris, pas bon du tout. J'habite à Paris. Rester à Paris est pas du tout bon pour la créativité. Pour le moment où j'écris, ça, oui, mais pas du tout pour le moment de recherche. Il faut que j'aille voir autre chose ailleurs. Sortir aussi, rencontrer plein des gens. Enfin, je trouve que voilà, les moments de vie fournissent... Parce que même si on parle du XVIe siècle, mes personnages, je sais à qui je pense quand je suis en train d'écrire sur Véronèse ou Tintoret. Ça peut être des gens très proches qui se rencontreraient, naîtront. Alors là, vraiment, jamais, parce que personne ne pourrait avoir l'idée de se reconnaître dans des personnages historiques. Mais on se nourrit de notre vie, tout en respectant évidemment la vérité. Je suis hyper pointilleuse et j'aimerais pas tromper le lecteur. Enfin, je trouverais que ce serait une tromperie dans le cadre de mon pacte de lecture, celui que j'organise ou celui que j'installe, où globalement, vraiment, la plupart des éléments sont réels, me mettre à inventer quelque chose, je trouve que ce serait pas correct vis-à-vis du lecteur. Alors que dans la fabrique de souvenirs, là, j'ai bien rigolé, je faisais ce que je voulais. C'était sympathique aussi.
Et tu penses que tu vas réécrire livre un peu comme La Fabrique des Souvenirs, justement, pour avoir cette liberté.
Je pense. Absolument. Mais d'ailleurs, le prochain sujet, c'est en ça que j'hésite. J'ai des sujets, mais là, je parlais avec mon éditeur des sujets à venir. Et je lui ai présenté 3 sujets assez différents. Enfin, 2 historiques et un autre vraiment différent. Il me regardait, il me dit, c'est bien, tu as un spectre large d'intérêt, de zone d'intérêt. Et c'est vrai, j'aurais du mal à alors que c'est vraiment un délice de travailler sur la peinture italienne et sur la Renaissance et sur toute cette époque qui est fascinante parce qu'elle préfigure la nôtre. Vraiment, on est surtout la fin de la Renaissance dont j'ai parlé 2 fois. C'est le hasard, mais c'était les mêmes périodes à chaque fois. Elle nous fait... Enfin, moi, je trouve que quand on lit les penseurs de l'époque, ça nous rapporte vraiment à l'histoire contemporaine qu'on est en train de vivre avec... Des inquiétudes immenses quoi, quant à l'avenir et en même temps des zones, des espaces de créativité qui sont immenses aussi, donc de renouvellement, je sais pas, l'écologie, ça offre un terrain de jeu infini quoi, et à quelque chose qu'on n'imaginait pas avant, et même les questions de genre, ça ouvre complètement le spectre. Alors qu'il y a des discours alarmistes qui, au contraire, enfin voilà, c'est assez... Enfin, en ça, je trouve que le XVIe siècle nous donne des pistes pour ne pas sombrer dans la folie. voilà. C'est souvent à ça que ça sert, pour moi. Et puis étudier l'art, ben, voilà. Étudier les artistes, c'est quand même quelque chose qui me motive beaucoup aussi.
Et comment tu vas choisir alors, entre les 3 sujets ?
Ah ben ça y est, c'est choisi. Mais maintenant, c'est le traitement. Je suis en train de chercher l'axe.
D'accord. Mais comment t'as choisi, du coup, entre les 3? Parce que t'en as 2 qui se ressemblent un peu, puisqu'ils sont historiques, et il y en a un qui n'a rien à voir.
De façon assez raisonnable, je vois que celui qui n'a rien à voir et n'est pas encore assez mûr, en
D'accord,
fait.
Ouais.
Celui-là, je ne l'ai pas depuis assez longtemps. Mais
D'accord.
Il va, à mon avis, d'ici 5-6 ans... Si je continue à écrire et que tout va bien, il arrivera. Mais là, je l'ai eu. Voilà. Des idées que j'ai. Trop. Qui sont trop récentes, en général, j'arrive pas à m'y attaquer immédiatement. Donc, il faut que ça mûrisse.
Et puis, c'est un bon test aussi. Hein, si elles sont toujours là au bout de 5 ans.
Mais exactement. Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Plus oublié, mais dès qu'on les relit, enfin, dans la note, là, en question, mais...
Ouais.
Et hop, immédiatement, tout le monde qu'on s'était créé en inventant cette idée, en la notant juste comme ça, réapparaît, en général, c'est vrai que c'est bon signe.
J'arrive à ma dernière question.
Oui.
Est-ce que tu sais pourquoi tu crées, et pourquoi tu continues à le faire ?
Ben oui, pour essayer de comprendre... pour essayer de comprendre quelque chose au... Bizarrement, à la vie dans laquelle on évolue, pour essayer de percevoir... Enfin, j'ai toujours été attaché à la fiction, quoi. Donc, beaucoup le 19e, d'abord, parce que c'est la fiction la plus classique, celle qu'on nous apprend le plus vite, mais c'est... Je perçois le monde à travers des personnages fictifs. Et c'est comme Proust le dit, si Bergotte, dans La Recherche, il y a un moment où il raconte que si l'écrivain Bergotte ne lui avait pas raconté tel fait dans un de ses livres, il n'y aurait pas prêté attention. Et en fait, moi, je vis vraiment beaucoup à travers les romans que je lis, qui m'aident à décalquer le monde. Et en les écrivant, c'est un peu le même objectif que je recherche. Donc ça peut durer longtemps, parce qu'avant de le comprendre...
Ben c'est ça, c'est toute la phase avec l'axe.
Oui, c'est ça.
Merci à Clélia d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode.
Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.